Bienvenue à Sur la ligne, cette émission tout tennis. Cette semaine, on reçoit une passionnée de tennis, celle qu'on surnomme la femme de hockey, l'excellente Isabelle Etier. On parlait notamment de la venue de Billie Jean King à Montréal, mais aussi du tennis la semaine passée. Chapovalov et Vacek Pospisil ont bien fait. Nicolas Richard, bonjour. Hugues Léger, bonjour. Les gars, êtes-vous prêts?
Ok, oui.
C'est parti!
Salut, salut tout le monde. Bienvenue à ce nouvel épisode de Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les plateformes audio, que ce soit Spotify, iTunes, Apple Podcasts. C'est là qu'on voit qu'on est vieux quand on parle de iTunes. Nicolas Richard, j'ai dû toucher une corde sensible chez toi. On est là sur toutes les plateformes audio et on est également diffusé à BPM Sport. D'ailleurs, toute l'équipe collabore très régulièrement à la radio qui est rendue non seulement à Montréal, mais également à Gatineau et à Québec. Alors, messieurs, très content de vous retrouver, particulièrement Nicolas. On t'a manqué dans les dernières semaines. Comment te portes-tu dans ton Saint-Jérôme natal?
Ça va très bien. Petite notice, dorénavant, il faudrait peut-être dire les places où on n'est pas. Je pense que ça irait plus vite.
T'as bien raison. On dira nulle part sauf partout.
Exactement.
Hugues Léger, comment vas-tu? Écoute, on va en parler un peu plus en profondeur, mais je te remercie encore pour avoir. Tu m'as permis de réaliser un rêve la semaine passée. Je pense que tu en as été conscient. On va reparler, mais d'abord, comment vas-tu, mon cher Hugues?
Ça va bien. Je suis surtout content de savoir que le podcast est maintenant disponible sur iTunes à 99 sous.
Chaque épisode est payant.
Exact. Non, ça va bien. C'est une semaine forte en émotion, effectivement, la semaine passée avec la venue de Billie Jean King dans le cadre de C2 Montréal, le grand événement créativité business C2, avec Rebecca Marino aussi, qu'on a accompagné toute la journée. Puis j'avoue, Alex, que moi aussi, ça a été un des beaux moments quand je t'ai vu témoigner toute ton admiration à Billie Jean King. Et c'est pour ces moments-là qu'on fait ce qu'on fait aussi. Là. Donc, le fait que tu la considères comme la plus grande sportive de tous les temps, hommes et femmes confondus, pour son action sur les terrains, mais en dehors des terrains, évidemment. Donc, je suis très content pour qu'on vive ce moment-là ensemble. Puis Billie Jean King a amené beaucoup à Montréal aussi dans le cadre de ces deux. Là. Donc, c'est un moment au niveau de ma carrière de stratège dans le sport c'est un moment qui va être marqué d'une pierre blanche. Là, c'était une très belle journée qu'on a vécue la semaine passée.
Ce qu'il faut comprendre et ce que je rappelle aux gens, c'est que tu t'occupes en partie du contenu de Tennis Canada. Tu es un producteur d'une certaine manière pour eux. C'est toi en grande partie qui a coordonné la venue de Billie Jean King. C'était, j'imagine, beaucoup de travail, mais écoute, tu peux dire mission accomplie. Je pense que ça s'est bien déroulé. En tout cas, Billie Jean King semblait satisfaite. Toi, es-tu satisfait? Comment ça s'est passé?
Oui, je souligne encore une fois qu'on travaille dans le cadre du programme d'équité des genres de la Banque nationale pour Tennis Canada, donc sous la gouverne de Valérie Tétrault. Donc c'est un super beau chantier là qui couvre toute l'année 2022, qui va se compléter par les finales de la Billie Jean King Cup à Glasgow début novembre. Donc c'est vraiment un super beau chantier qui porte beaucoup de fruits pour Tennis Canada en ce moment, qui est un précurseur, je dirais, au niveau de l'équité des genres puis de la gouvernance sociale de tous les sports confondus au Canada en ce moment. Donc, très, très fier de ça. Puis oui, je pense que les intervenants étaient vraiment contents. Évidemment, dans une situation comme ça, on doit composer avec les agents des athlètes, avec l'organisation de ces deux qui roule au quart de tour. Ils ont été exceptionnels dans leur accompagnement. Je tiens à souligner aussi. Et évidemment, on veut que Tennis Canada, la Banque nationale, soit très content du travail qu'on fait aussi. Donc, c'était beaucoup de pression, mais pour la bonne cause, comme on dit, ça s'est très bien passé.
Ben, mission accomplie. Toi puis moi, on était à C2 Montréal. Nico aurait aimé ça être là, mais il y en a une qui était là avec nous. On la retrouve aujourd'hui. Isabelle Etier, bienvenue pour une première fois au podcast Sur la ligne.
Ben, merci de me recevoir, les gars. C'est un honneur de me joindre à vous aujourd'hui.
Ben, Crime, l'honneur est très partagé parce que, regarde, nous, on est très satisfaits de comment va le podcast. Mais avant qu'on rentre dans Billie Jean King, là, pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas dans le monde du tennis, et moi, j'ai appris par ailleurs que tu étais une méga fan de tennis. C'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Mais écoute, toi, ton podcast, c'est un des podcasts qui grandit le plus vite, je suis pas mal sûr, au Québec, au Canada. Là. Parle-nous de Femmes d'Hockey rapidement là, avant qu'on revienne sur Billie Jean King.
Bien, en fait, le balado Femmes d'Hockey, c'est le temps d'une période. J'invite les gens à venir découvrir l'histoire et la passion pour le hockey de mon invité. Donc, les invités, ça peut être des joueurs d'hockey professionnels, des joueuses, mais aussi des personnalités publiques. Tu sais, bon, on a eu Marie-Ève Dicker qui est venue, on a eu Étienne Boulay, on va un peu partout vraiment. En fait, c'est qu'on utilise le hockey pour apprendre à connaître les humains, mais surtout, on en profite pour parler de la place des femmes dans notre sport, bien entendu le hockey, mais aussi la place des femmes en général. Donc, c'est un balado. On est à 60 épisodes, d'ailleurs, cette semaine. On relance la nouvelle saison et très contente là, des invités là, qu'on a déjà sur le balado. Fait que c'est un beau balado à regarder ou à écouter.
Oui, exact. Hein? Tu as une version vidéo, tu as une version audio également. On repluguera en fin d'émission, mais où est-ce qu'on peut le trouver, ce balado-là? Il est disponible où?
Disponible sur femmes.hockey, donc le site web, parce que c'est une plateforme, il y a le balado, mais aussi plein d'autres contenus. Spotify, Apple Podcasts, Google Play, TVA Sport, Cube Radio, YouTube, c'est disponible sur toutes ces plateformes.
Comme dirait mon toujours ami et ancien collègue de TVA Sport, Éric Fichaud, pas gênant. C'est pas gênant ce que tu as réussi à faire. Félicitations, Isabelle. Je pense que invité après invité, tu as eu des gros noms, puis tu fais ta place non seulement dans le hockey, mais dans le monde du sport, dans le monde des médias. Et puis, je t'avoue que c'est assez une inspiration pour nous aussi. Alors, bravo. Écoute, on va parler de tennis parce que quand même, on t'a invité pour parler de tennis. Ma première question pour toi, c'est pourquoi as-tu décidé de venir voir Billie Jean King à C2 Montréal?
Bien, c'était un incontournable. Pour moi, cette femme-là, elle a un impact dans le milieu du tennis, mais dans le milieu du sport en général. Moi, je suis une joueuse de tennis. En fait, je suis pas une joueuse de hockey, je joue au tennis. C'est ce que je fais. C'est dernièrement. J'ai toujours aimé le tennis. Il faut que je vous raconte ma petite histoire de tennis, comment le tennis est rentré dans ma vie. J'étais toute jeune, j'étais probablement en première année, deuxième année, puis mon frère jouait à balle au mur, puis il voulait pas partager avec moi son gant de baseball. Donc, ma grande-tante a dit, Isabelle, viens-t'en, je t'amène au magasin. Je pense que c'était la Verdure à l'époque, là, sur la jeunesse, si je me trompe pas, là, Bruno. Bref, à me rendre.
Crémazie,
exact. Oui, mais non. Ouais,
Crémazie, la jeunesse.
Il était un peu plus haut à cette époque-là. Okay. Là. Je te parle, je suis un peu plus vieille que toi. Et je suis revenue avec ma Dunlop en bois, avec un cover, puis mes balles. Et là, ma tante, elle m'a dit, bon, je ne veux pas partager, toi, tu vas jouer au tennis. Et là, j'ai appris à faire balle au mur. Je peux vous dire que je vais prêter à mon frère ma raquette. Hein. J'ai joué. Mais j'avais pas joué au tennis organisé avant, beaucoup plus tard. Fait que, bref, pour moi, le tennis, c'est mon sport. C'est celui que j'aime pratiquer aujourd'hui. Je le pratique encore aujourd'hui. Fait que de rencontrer Billie Jean King, de pouvoir l'entendre, c'était super important. Puis surtout que ma mission avec Femmes d'Hockey, c'est en parallèle, on s'entend là, de faire la différence, de montrer, de prendre action. Bien, ça m'a confirmé là, en l'écoutant les deux fois, puis aussi avec Rebecca Marino, qui a été une très belle découverte pour moi aussi en tant que femme. Je connaissais son tennis, mais pas la femme. Wow! C'était une journée incroyable. J'en garde de bons souvenirs et de bons partages de leçons.
Et mettons, là, dans le quotidien, ben, je sais que tu es occupé. Tu travailles avec la Ligue de hockey M18. On se côtoie, façon de parler, là, à cause de mes affectations avec la LHMQ. Mais, est-ce que tu es une fan de tennis ou de genre, chaque week-end, tu vas regarder un œil sur les résultats, tu vas regarder les matchs? Ah oui, hein?
Ah oui, non, moi, j'ai tu sais, il y avait le marathon de Montréal, là. Moi, c'était le marathon Laver Cup que je regardais. J'adore, j'ai même comme objectif de faire tous les grands tournois, de faire les ATP 1000. J'étais à Indian Wells l'année que Bianca a gagné. J'ai pas vu Bianca, j'ai vu Félix, par exemple. Je suis vraiment, je regarde, je vais à la coupe, je viens au stade IGA à chaque année. Pour moi, c'est un rendez-vous inconditionnel.
Ah, ben Colin, écoute, moi je l'apprends, je le découvre, puis ben écoute, peut-être qu'éventuellement on fera de toi une collaboratrice au podcast, une analyste, qui sait. Isabelle, ben je t'invite à joindre la discussion parce que je veux qu'on parle de ce qui s'est passé avec Billie Jean King, puis je pense que tu as bien résumé, tu sais, c'est une grande du monde du sport, c'était un incontournable, et moi je suis parfaitement très heureux, je suis très, très, très heureux d'avoir eu assisté à ça. Hugues, toi, qu'est-ce qui t'a marqué de cette rencontre-là, de cette journée-là de Billie Jean King, au-delà de la conférence? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique qui t'a marqué?
Ben, premièrement, c'est Billie Jean King qui est devenue la star de ces deux cette année. On le sait, il y a eu malheureusement l'annulation de Naomi Campbell qui n'a pas pu se rendre là en raison des diverses tempêtes qui sévissaient au-dessus de l'Atlantique la semaine dernière. Ça a donné un peu une douche d'eau froide sur l'organisation la veille. Donc, Billie Jean King est devenue du jour au lendemain l'invité conférencière vedette pour ces deux, et c'est vraiment, vraiment bien pour nous aussi, parce que ça a pris beaucoup de place au niveau des médias, il y a eu beaucoup de couverture, et c'était vraiment ça qu'on souhaitait. Le fait d'avoir une icône de cette stature-là à Montréal, ça arrive pas souvent. Je sais pas si on s'en rend vraiment compte, là, mais Billie Jean King est partie de la double A-list, là, au niveau des Barack Obama et autres, là, personne les plus influentes sur la planète. Et je m'aperçois que beaucoup de jeunes ne la connaissaient pas, en fait. Donc, pour cette raison-là, c'était vraiment utile qu'elle soit à Montréal pour qu'elle ait cette couverture-là. Et on sait que ces deux, c'est quand même une clientèle plutôt jeune. C'est des moins de 45 ans qui vont souvent participer à ce congrès-là. Donc, je pense que le message d'équité que Billie Jean King porte était important il y a une semaine, parce qu'il touchait une nouvelle clientèle peut-être pour elle aussi et pour nous au niveau de l'équité des genres. Dans le sport et pas seulement le tennis. Donc moi, ce que je retiens, c'est vraiment qu'elle a touché une nouvelle clientèle là, qui était peut-être pas au courant de tout ce qu'elle avait accompli. Puis ça m'a étonné. C'était des gens qui ont des postes importants dans des agences de publicité, des marketeurs et autres ont un peu découvert qu'elle était Billie Jean King. Et je pense qu'elle en a charmé plus d'un. Et on parle beaucoup évidemment de diversité, d'inclusion depuis quelques années pour toutes les bonnes raisons. Mais c'est elle qui le personnifie le mieux. Donc ce que Billie Jean King dit souvent, il faut walk the talk, là. Faites ce que vous dites et finissez vos matchs au sens propre comme au sens figuré. Et ça, c'est les messages que je retiens. Je pense qu'elle a touché beaucoup de monde la semaine dernière.
Isabelle,
je suis d'accord avec toi, Hugues, mais je rajouterais qu'elle est importante pour le sport en général.
Ben oui.
Parce qu'elle nous fait rappeler l'importance que le sport, c'est une représentation de la société. Quand tu parlais de finir, moi, tu vois, c'est une des leçons, puis c'est ce que j'ai dit dans une de mes chroniques à la radio, c'est qu'elle nous rappelle de mettre nos jeunes dans le sport, c'est qu'on leur apprend à finir une partie, et donc ça te permet d'apprendre dans la vie à finir et à prendre action dans tes jeunes. C'est au-delà pour les femmes. Moi, j'ai appris des choses aussi sur elle que je trouve, tu sais, j'avais pas pris conscience qu'elle avait été impliquée dans le Title IX, l'amendement de l'éducation aux États-Unis là, qui a eu lieu en 72, qui a amené une parité au niveau des investissements là, pour les sports. Tu sais, quand on regarde les sports aux États-Unis, puis souvent, ben, je peux faire un parallèle au niveau hockey, il y a énormément de beaux programmes de hockey universitaire de l'autre côté de la frontière, mais c'est grâce à une femme comme Billie Jean King qu'on a eu ça, parce qu'elle a milité pour ça, donc d'investir, de comprendre la différence, tu sais, comme qu'elle est derrière la WTA, bien entendu, qu'elle a fondé ça. T'sais, on ne le sait pas aujourd'hui, on regarde la WTA, on pense que c'est arrivé comme ça, mais que les femmes disent, écoute, encore à ce jour, elle accueille toutes les joueuses professionnelles. Pour moi, c'est pas juste elle le fait, elle est encore excessivement active et ça porte tout son sens dans elle continue à walk the talk, comme tu dis.
C'est un titan de l'avancement social, là, disons-le comme ça. Elle est encore impliquée dans le sport, dans d'autres sports. Là. Elle a parlé d'hockey féminin, elle a parlé de basketball féminin également. Et ça, c'est phénoménal. On pourrait y revenir. Là. Nico, je sais que tu n'étais pas là. D'ailleurs, je veux rappeler que c'est toi qui avais eu le scoop de sa venue à Montréal. D'ailleurs, je me demande c'est qui ta source. Je sais que tu n'étais pas là, je sais que tu aurais voulu être là, mais te connaissant, tu as tout lu, tu as tout regardé ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui t'a marqué de son passage à Montréal?
Vous en avez effleuré quelques mots. Ce que je trouve le plus fascinant, et je pense que c'est ce qui distingue Billie Jean King de tous les autres ténors du monde du sport, c'est à quel point elle est capable de faire passer son message et de véhiculer sa pensée de génération en génération. Parce que tu sais, Alex, tu l'as dit, elle est pour toi la plus grande athlète de tous les temps, ce qui est complètement légitime.
L'athlète la plus importante, je vais dire comme ça. Pour moi, elle est l'athlète la plus importante.
Mais tu ne l'as jamais vu jouer. Tu comprends? C'est donc dire à quel point son message, ce qu'elle porte, son poids historique est important et de la voir toujours debout, défendre ses valeurs, défendre ses idées et aller de l'avant parce qu'elle pourrait très bien être chez elle en Californie, les pieds sur le pouf et relaxer, prendre le temps qui lui est dû. Elle voyage à travers le monde, elle ne cesse jamais, elle est dans tous les événements, tous les gros tournois parce que son message est important, il est essentiel. Donc, ce que je retiens de sa venue à Montréal, et Hugues l'a dit, oui, il y a des jeunes qui ne savent pas c'est qui, mais tant mieux parce que cet athlète-là va résonner maintenant chez une autre partie de la population qui était peut-être un peu éloignée ou distante de ce qu'elle portait, de ce qu'elle voulait, de ce qu'elle signifiait. Et donc, ce passage à Montréal et toute cette campagne, je pense, aura valu la peine simplement pour le fait que son message puisse se transmettre de génération en génération.
Puis de rappeler aussi que, oui, c'est vrai que dans le tennis, le sport est peut-être en avance sur à peu près tous les autres sports féminins, mais qu'il y a encore du travail à faire, n'est-ce pas, Isabelle? Tu sais, toi-même, tu m'en parlais quand on se parlait à bâton rompu. Oui, c'est vrai que le tennis fait bien, mais il reste encore du travail à faire.
Ah non, la partie n'est pas gagnée, la partie n'est pas terminée. Mais oui, c'est vrai, le tennis fait bonne figure quand même au ce qu'on parle d'équité pour les femmes dans le sport. Mais quand on regarde quand même les bourses générales, c'est pas tous les tournois qui ont des bourses équitables. Quand on regarde les contrats de commandite, je vais vous amener une petite statistique, moi, qui me fait dérouger. Je me rappelle pas si c'est 57, 58 milliards, là, mais on n'est pas à un milliard près. En fait, oui, on est à un milliard près parce que les femmes, c'est près d'un milliard en commandite sportive dans le monde versus 57 ou 58 milliards. Donc, il y a vraiment encore un grand...
Dans le sport en général ou seulement au tennis?
Dans le sport en général. Okay, okay. Dans le monde, les commandites de sport par année, on parle de 57 ou 58 milliards, c'est seulement qu'un milliard pour les femmes. Donc, c'est sûr que si on regarde les athlètes, il y a un débalancement. Donc, tu sais, une Serena Williams qui a énormément, puis on dit, OK, elle a des belles bourses, puis elle a des belles commandites, mais elle n'atteindra pas quand même les grands sportifs. Là, je ne pourrais pas vous dire les parallèles dans le tennis en général. Il faudrait que je ressorte l'étude, mais quand même, je trouve qu'on se doit de le mentionner. Tu disais, Nicolas, je trouve que c'est bien dit comment son importance, on ne l'a pas vu jouer, mais elle est encore importante. Moi, sur la plateforme Femmes de hockey, j'ai fait un post le 23 septembre pour la bataille des sexes. On sait qu'elle a gagné la bataille des sexes contre l'ancien numéro 1, mais en mettant ça, moi, sur la plateforme, il y a eu plein... Les gens m'ont communiqué leur témoignage qu'ils en ont parlé à la maison. Ils ont dit, hey, on ne savait pas ça, on ne connaissait pas cette partie-là, que 90 millions de spectateurs avaient regardé ça dans le monde, que ça a fait une différence. Donc, déjà là, qu'elle vienne à Montréal, qu'elle puisse parler, qu'on en parle dans les médias, qu'on en reparle aujourd'hui, ça permet d'amener la discussion à la table. C'est génial.
S'il y en a qui veulent plus de détails, d'ailleurs, sur la Battle of Sexes, il y a un excellent film qui a été fait. Je trouve qu'il résume assez bien la situation. Puis, je tiens à rappeler que Billie Jean King avait pris, entre guillemets, la balle au bon parce que Margaret Court avait joué contre Bobby Riggs. Plutôt, elle s'était fait rincer. Et d'une certaine manière, Billie Jean King a un peu pris la revanche pour toutes les femmes, toutes les joueuses de tennis, puis elle est allée battre Bobby Riggs de façon assez franche, d'ailleurs. Là. Écoute, c'est le film le résume assez bien, mais quelle est eu l'audace dans les années 60-70 de dire non à des hommes pour dire, ben garde, ton grand chelem, c'est rien si tu n'as pas les meilleures joueuses. Nous, on va le boycotter, ton tournoi. On va se partir une association. Qu'elle ait eu l'audace aussi d'aller se mettre sur le spot, de dire, je vais jouer contre un ancien numéro un mondial, bon, qui est un clown d'une certaine manière, là, Bobby Riggs, et je ne dis pas nécessairement de façon positive. Là,
un peu mais, chauvin.
Ouais, chauvin, puis show-off, puis... Ben, en tout cas, vous regarderez le traitement que le film en fait de Bobby Riggs, mais qu'elle a eu l'audace de se dire, je vais prendre une chance après que Margaret Court se soit fait rosser, qui est Margaret Court, qui est une des plus grandes joueuses de l'histoire du tennis, là, c'est absolument phénoménal, et qu'elle ait posé les bases de ce qu'est la WTA aujourd'hui, le sport qui rémunère le mieux les femmes. Je l'ai dit souvent, mais c'est pour ça que je pense que pour moi, pour ce qu'elle a fait sur et à l'extérieur du terrain, c'est l'athlète la plus importante, tout sport confondu. Puis Hugues, t'en as été témoin. Je me suis permis de lui dire, avec presque les larmes aux yeux, honnêtement. Là, j'étais vraiment, vraiment, vraiment émotif, Nico. Là, côtoyer des athlètes professionnels, des athlètes de haut niveau, c'est mon quotidien. Là, okay? Ça ne m'impressionne pas de croiser Carey Price. Mais j'ai pas été capable de me retenir. Pour moi, c'était tellement important. Puis, écoute, j'ai pris Hugues dans mes bras après pour dire merci de l'occasion. J'avais les larmes aux yeux. Puis, elle a semblé quand même touchée que je lui dise. Puis, je pense pas que c'était du PR. Là. Je pense qu'elle semblait vraiment touchée parce qu'elle m'a même dit « C'est drôle que tu fasses pas la nuance juste femme puis que tu me parles des hommes et des femmes. » Je sais pas si tu as eu la même impression que moi, Hugues.
Oui, non. Je pense qu'elle a vraiment aimé que tu lui dises, que tu as pris ton courage à deux mains pour lui dire face à face. Là, c'était pas évident quand même. Puis, le fait que tu l'as mis en perspective un peu là, par rapport à d'autres grands noms là, comme LeBron James notamment et d'autres, je pense qu'elle a bien vu que c'était quelque chose qui venait du cœur, puis elle a beaucoup apprécié. Je pense que les gens, c'est pas tout le monde qui prend qui va faire cet effort-là de lui donner une petite tranche de vie personnelle là, sur leur appréciation. Donc, c'était un très beau moment. Puis oui, je suis content de te prendre dans mes bras après pour pas que tu pleures devant elle trop quand même.
Ah non! Je fais juste hashtag jalousie ici, là, parce que j'étais là.
Écoute, je te comprends.
J'étais juste heureuse de la voir à distance, là, tu sais.
Puis tu sais, j'ai posté la photo, Isabelle, tu l'as vu, tu l'as même commenté sur mes médias sociaux. Puis moi, en toute transparence, je ne suis pas si à l'aise que ça avec mon apparence physique au sens où je ne sens pas nécessairement le besoin de publier des photos de moi. Je ne suis pas si à l'aise de ça que de le faire, là, en dépit du fait que c'est en partie mon métier. Mais c'était un moment pour moi trop important et j'ai voulu l'immortaliser sur, entre guillemets, ma timeline personnelle. Parce que si on m'avait demandé... T'as une personne à rencontrer. Là. T'as le droit d'aller souper avec une personne, n'importe qui. C'est sûr que j'aurais répondu Billie Jean King. C'est fait que pour moi, c'était vraiment un grand moment. Et ce qui m'a marqué, Hugues, au-delà de... Puis on reviendra sur tous ses propos, je pense que ça vaut la peine. Mais au-delà de tout le combat qu'elle faisait, qu'elle fait, de ce qu'elle défend, chaque personne qu'elle croisait lui serrait la main. Oui. « Salut, c'est quoi ton nom? C'est quoi tes objectifs? » Écoute, je suis flabbergasté, là. La fille n'a pas le temps de faire ça. Là. Puis des fois, ses bodyguards, ils poussaient dans le dos d'une certaine manière pour lui dire, là, regarde, il faut qu'on y aille. Mais elle prenait le temps de dire, OK, c'est quoi tes objectifs? Qu'est-ce que tu vas faire pour y arriver? As-tu pensé à ça? Écoute, je suis tombé en bas de ma chaise. Chaque personne qui l'arrêtait, elle prenait une minute pour discuter avec. Là, c'était pas juste comme salut. Là. Je tombais en bas de ma chaise de voir qu'une personne, tu l'as dit, là, ça se compare au Barack Obama. C'est un double A-list, comme tu dis. Et un côté aussi humain, tombe en bas de ma chaise.
Ben, tu sais, Alex, j'ai l'impression que souvent, ces gens-là de très haute stature, profil international, qui ont des réussites énormes, qui vont justement prendre le temps d'écouter les gens. Là. Il y a un niveau, on dirait, de star où c'est plus centré sur eux. Et tout d'un coup, ces gens-là qui sont plus grands que nature, comme Billie Jean King, sont très ouverts vers les gens. Ils veulent entendre ce que les gens ont à dire. Et effectivement, elle avait 30 secondes avec quelqu'un, des fois une minute, et elle trouvait le moment, elle trouvait la manière à chaque fois d'aller chercher une information qui est plus personnelle et qui était importante pour la personne. Moi aussi, puis elle a quand même 79 ans, faut le dire, là. Elle est d'une vivacité, d'une énergie incroyable et excessivement ouverte envers les autres. Et c'est une grande personne, vraiment.
Voilà. Et d'esprit.
Oui, absolument.
Vive d'esprit, c'est fou parce que bon, on a les deux assisté aux deux conférences parce qu'elle en faisait deux. Elle en avait une dans l'aquarium qui était plus en mode audio, qui était un petit peu plus sur The Battle of the Sex. Oui, il faut que je mette le S à la fin, désolé. Et après ça, il y avait vraiment plus sur son parcours où là, on était vraiment plus dans son leadership, dans sa personnalité, dans au niveau, même pour l'individu en général. Puis à chaque fois qu'elle avait des questions, qu'il y avait des choses qui se passaient dans la salle, elle réagissait avec beaucoup, beaucoup d'intuition et de spontanéité.
Et Hugues, je ne sais pas si tu as remarqué, mais quand on est rentré dans la salle, parce que Rebecca Marino, on n'était pas sûr au début de la soirée, de la journée, si elle allait pouvoir rencontrer Billie Jean King. Finalement, on a eu la confirmation. Tu as eu la confirmation. Ils nous ont dit 5 minutes. Honnêtement, c'est sûr que ça a duré au moins 20 minutes, parce que Billie Jean King a pris le temps de faire raconter l'histoire à Rebecca Marino, lui demander c'est quoi tes objectifs, ça ressemble à quoi tes prochaines années, qu'est-ce que tu vas faire pour aider le monde. Écoute, encore une fois, je suis tombé de ma chaise, je ne sais pas si tu veux acheter.
Ah ben Alex, moi, je peux te dire que je me sentais privilégié sur ce moment-là, parce qu'il y avait Valérie Mikhaïla-Ben, qui était l'intervieweuse de Billie Jean sur le...
On était 5 dans la salle, 5.
Sur la grande scène. Oui, ça, c'était... Donc, de pouvoir entendre la discussion entre Billie Jean, Rebecca et Valérie, c'était vraiment, vraiment intéressant. Puis comment elle a posé des questions à Marino, puis comment elle lui demandait aussi au niveau de son jeu. Et c'est là que des fans de tennis comme nous, elle lui disait, bon, OK, la balle s'en vient au centre vers toi. Ta meilleure réponse, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aimes faire? Là, moi, ça, c'est du bonbon pour des fans de tennis. Là, qu'est-ce qu'elle va y répondre? Fait que là, ils ont eu un échange tant au niveau personnel, au niveau de ses ambitions, au niveau social, mais au niveau du jeu aussi. Donc, c'était dans le tactique et dans le technique. On a touché à tous les niveaux. Et Billie Jean a réussi à faire ça en 5-7 minutes. Son agent était très
flexible,
très patient de la laisser aller aussi. Tip, je tiens à le mentionner, là, qui est un partenaire de longue date à Billie Jean. Ça fait 25 ans qu'il est avec elle, je pense. Donc, il a fait le tour du monde avec elle. C'est autant son confident, son protecteur que son agent. Je peux vous dire que ça roulait au quart de tour. Quand elle part sur une intervention avec quelqu'un, il va la laisser parler. T'sais, il veut vraiment qu'elle aille au bout de sa discussion. Donc, pour Rebecca, c'est un moment génial. C'est les deux agents qui se sont parlé ensemble, en fait. Ils ont dit, bon, Rebecca aimerait beaucoup passer un peu de temps avec Billie Jean. Billie Jean était très contente de l'accueillir. Elle la connaissait pas vraiment, en fait. Ils ont eu une longue discussion pour se connaître un petit peu plus au début. Mais je pense que Rebecca aussi a vécu un moment qu'elle est pas prête d'oublier. Surtout dans une année pour elle qui est exceptionnelle. Donc, je dirais que ça va ajouter un autre élément de motivation, de satisfaction pour finir l'année. C'est une année de rêve pour Rebecca, là, qui revient dans le top 100, qui sera vraisemblablement sélectionnée pour les finales de la Billie Jean King Cup dans quelques semaines. Je pense que ça va lui donner un petit boost aussi pour continuer. Donc, moi, j'étais très content qu'on ait pu faciliter tout ça ensemble.
Parlons de son propos, et Nico, je vais t'intégrer, là, évidemment, pour que tu puisses commenter ça. Puis, Isabelle, j'aime pas aussi pour rentrer dans la discussion. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, moi, pendant sa conférence, parce que, bon, on sait ce qu'elle a accompli dans le passé, on sait où elle a amené le sport, mais elle a envie d'amener le sport encore ailleurs. Et puis, elle a vraiment beaucoup, beaucoup d'éléments qui m'ont marqué. Nico, elle a dit, il faut continuer de développer la base, il faut le faire avec les enfants, et pourquoi on ne commencerait pas par changer le score? Et là, elle a dit, ça n'a comme pas de sens. Essaye d'expliquer à un enfant 15-30, là, tu devrais dire 45, mais c'est 40. Et, ouais, Isabelle, tu veux, vas-y donc.
Mais tu sais que ça vient, ça, hein?
On l'a déjà fait, c'est la distance par rapport au filet.
OK, bien, allez voir l'autre épisode, si vous voulez savoir, mais il y a toute une explication. Puis le deuce, qui est le 2 en anglais, dans le fond.
Ouais, le deuce. Mais ouais, on l'a déjà expliqué, on a même déjà publié, je pense qu'on a déjà publié quelque chose par rapport à ça. Mais il reste que, d'un point de vue instinctif, tu sais, je veux dire, si tu veux développer la base, tu veux bien simplifier les choses, et pourquoi pas, ça changerait rien si on faisait 1, 2, 3, 4. Nico, toi qui es un puriste, là, je sais, t'es le plus puriste parmi nous trois. Si on changeait la nomenclature du score, est-ce que tu serais pour ou contre, pour le fun? C'est jour de vote, là, je te laisse voter. Ben,
personnellement, moi, ça mériterait au plus haut point. Mais au-delà de ça, ça amène un tout autre débat parce que, puis là, je fais le parallèle avec le monde du hockey aussi, ou en Suède, notamment. Les points ne sont pas comptés avant l'âge de 9, 10, 11 ans. C'est-à-dire que les matchs durent une heure. On ne sait pas si ça finit 2-1, 4-0, 6-2, 7. On n'a aucune idée parce que les points ne comptent pas parce que on n'a pas l'accent là-dessus. Prenons d'abord le plaisir de jouer avant le plaisir de gagner. Ici, autant de sportifs en Scandinavie, on le voit en Norvège notamment, il y a beaucoup de sportifs qui s'amènent sur la scène internationale, au golf, au soccer, dans d'autres sports aussi, Finlande, Suède, même chose. C'est parce que les points sont relégués au second plan, c'est-à-dire à un âge où, ultimement, on s'en fout un peu de savoir qui a gagné, on veut juste que les jeunes puissent bouger, avoir du fun. Ça amène un tout autre débat, et de savoir que Billie Jean King est à la base, ou du moins fait partie des amatrices de ce mouvement-là, me ravit beaucoup, ça ne me surprend pas outre mesure, mais ça amène, je pense, non seulement au tennis, mais dans tous les autres sports, extrêmement de questions pertinentes à se poser.
Autre chose qui m'a marqué, messieurs, et là, je m'adresse à l'entraîneur de tennis, Hugues. Elle a dit, je ne comprends pas pourquoi est-ce que on fait des lignes avec les jeunes pour que, puis là, ils attendent pour frapper des balles. Elle disait, ça n'a pas de sens. Faisons-les courir, faisons-les frapper des balles. Elle dit, moi, quand j'étais jeune, c'est ça qui me faisait triper, c'est frapper des balles puis courir. Alors, pour les enfants, là, je veux plus voir de lignes. Puis ça me fascinait de voir à quel point elle était encore tellement consciente de comment développer le sport. Je sais pas, t'en penses quoi?
Ben, je veux dire que dans le programme de certification de Tennis Canada, on ne peut, on, enfin, on est on ne doit pas faire ce genre de mise en place-là au niveau du jeu. C'est, tout le monde doit être actif tout le temps. Donc, tous les jeux de réchauffement, toutes les drills spécifiquement, pardonnez-moi mon anglais, on peut plus fider des balles comme on faisait avant. Ça va être vraiment pour un cours privé où on fait des trucs plus spécifiques, où on va fider des balles. Mais s'il y a un groupe d'enfants de 4, 6 et 8, on va essayer d'avoir un nombre pair autant que possible pour que tout le monde joue. Et l'instructeur se promène autour du terrain pour donner des instructions pour corriger des choses. Mais le but, c'est que tout le monde joue maintenant et qu'on évite justement ces fils où tu es en train d'attendre que ce soit ton tour pour frapper une balle ou deux. Donc ça évolue beaucoup en ce moment et heureusement. Donc, on est vraiment dans un mode au niveau de la structure des cours qui est joué. Après, on va aller sur un élément technique qu'on va avoir vu durant le réchauffement où on joue au début, qu'on va corriger un petit peu, mais toujours en mode jeu. Et après, on fait des points à la fin du match. On va avoir un petit côté un petit peu plus compétitif. Mais vraiment, c'est que tout le monde joue à tout moment et c'est vraiment important. Et son passage sur les points, c'était vraiment important aussi. Ça, on n'est pas encore prêt de le changer, mais c'est un vrai élément. Ça et la durée des matchs qui font que pour les plus jeunes, c'est plus compliqué. Puis moi, je le vois dans tous mes cours, que ce soit enfant ou adulte, quand on passe au moment de parler des points, même pour ceux qui le savent, quand on rentre dans le tie-break, ils savent plus souvent. Donc, changement de côté. Changement de côté à 6 points, ben OK, à 6-0 ou à 3-3, quand tout le monde oublie. Puis là, on rentre les matchs tie-break maintenant au troisième set pour compliquer les choses, un tie-break à 10 et non à 7. Donc, toute la structure de pointage au tennis est un blocage, je dirais, pour certaines personnes au niveau de la compréhension puis du jeu aussi.
Mais pas juste au niveau des jeunes, c'est aussi au niveau des adultes aussi. Moi, je fais de l'interclub adulte, puis je vous confirme que c'est pas plus assimilé au niveau âge adulte qu'enfant. Là. On doit l'expliquer.
Isabelle et Hugues, vous êtes deux experts marketing. Alors, j'ai une question pour vous, parce qu'elle a parlé de la business du sport un peu, mm-hmm. puis elle a envoyé un message aux compagnies en disant, si vous commanditez le tennis, puis vous le faites comme si c'était une faveur, faites-le pas. Il faut que ce soit donnant-donnant. Faites-le parce que ça développe votre branding puis que vous aidez le sport en même temps. Mais faites-le pas, d'une certaine manière, elle disait presque, faites-le pas comme un mécène. Hugues et Isabelle, tu sais, Isabelle, je vais commencer avec toi. Tu penses quoi de ça? Est-ce que parce qu'elle disait, elle faisait référence à la Banque nationale, elle était très au fait qu'elle développait beaucoup le sport, le tennis au Canada, puis elle semblait dire que la Banque nationale fait un bon travail, mais êtes-vous d'accord avec ça qu'il faut absolument que ce soit des deux côtés?
Bien, en fait, lorsqu'on parle de commandite, il faut d'abord que tu aies les mêmes intérêts au niveau des valeurs, au niveau des intérêts. Faut que tu sois capable d'exploiter la commandite, comme on dit. T'sais, de mettre de l'argent pour mettre un logo sur une bande, sur un chandail ou ça. Si tu ne l'exploites pas, ça sert à rien. Tant qu'à ça, fais une publicité. Je crois qu'effectivement, la Banque nationale fait un super travail avec le tennis. On le voit, sont impliqués. C'est vrai, on le sent. Puis ça devient même pas aléatoire. T'sais, on se dit, on associe automatiquement le tennis avec la Banque nationale. Ils sont indissociables. On peut même voir IGA. IGA, c'est la même chose. Ils sont très impliqués aussi. Et c'est là qu'il faut aller, je pense, quand on parle de commandite. Je comprends. Mais tu sais, on a besoin de ces argents-là. Moi, j'ai élevé aussi avec ma plateforme. Puis quand j'essaie de m'associer avec des marques, bien, je m'assure que les marques correspondent aussi à mes valeurs, à mes intérêts, puis qu'ils vont pouvoir, ça va être naturel de les mettre de l'avant.
Oui. Tu touches à plusieurs points vraiment importants, Isabelle, notamment sur la constance et la continuité. C'est ce qui fait qu'une commandite est payante. Ce qui fait qu'on va associer à un événement, à une marque, c'est qu'il y a une continuité au fil des années. Banque nationale, pour ça, fait un très bon boulot. Puis évidemment, on parle maintenant beaucoup plus de partenariats que de commandites. Et les partenariats sont souvent ancrés dans des piliers stratégiques au niveau de la compagnie. Donc, quand on parle du programme d'équité des genres de la Banque nationale, c'est un volet qui est une tactique d'exécution, si on veut, de leur stratégie ESG. Donc, tout ce qui est la gouvernance sociale à la BN, c'est vraiment le tennis qui est devenu leur activité principale sur ce point-là. Donc, c'est ancré dans quelque chose de vraiment important au niveau de la compagnie puis de leur mise en marché. Donc, forcément, ça ne sera pas seulement un don d'argent. C'est vraiment associé à des activités concrètes, ce qui fait que tout ça devient pertinent et peut être activé d'une manière qui fait du sens, puis qui fait progresser leur stratégie interne. Donc tant du côté de Tennis Canada, c'est utile que parce que c'est des valeurs qu'ils partagent. Effectivement, Isabelle, tu le disais, il faut qu'il y ait une adéquation sur les valeurs de marque pour que ça fonctionne. C'est un mariage au niveau des marques et ça fonctionne très bien. Mais des partenariats comme la Banque nationale, comme IGA, c'est vraiment ancré dans des chantiers stratégiques qui sont là pour le long terme et qui vont être payants pour les deux parties.
On va faire rapidement une courte pause. Isabelle, reste là. Il faut absolument que je fasse une pause. Mais au retour, on revient avec Isabelle Etier et on va continuer de parler de Billie Jean King.
Vivez une expérience culinaire hors du commun au restaurant de l'Hôtel Montville. Découvrez le concept original du menu à partager, entièrement conçu par notre chef Florimond Anoto. Pour réserver une table, rendez-vous sur hotelmontville.com. Réservez une deuxième nuitée à l'Hôtel Montville et profitez d'un rabais de 30%. Une magnifique vue du centre-ville ainsi qu'un séjour mémorable vous y attendent. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour avoir accès à cette offre.
Oui, on enregistre toujours en direct de l'Hôtel Montville, toujours super bien situé au centre-ville. D'ailleurs, Hugues, quand tu t'organisais cet événement-là avec Billie Jean King, tu disais toi-même que c'était parfait d'avoir pu coucher à l'Hôtel Montville parce que c'était particulièrement central pour tout cet événement-là.
Ça m'a sauvé la vie, Alex. Tu sais, je vais un peu faire le pont entre le Palais des Congrès de Montréal, qui est juste à côté, et la Reine Élisabeth, où se tenaient ces deux. Donc, Et le Montville était parfaitement situé entre les deux. Donc, effectivement, c'est un lieu qui nous permet de faire plein de choses au centre-ville très simplement.
Le dernier point que je voulais aborder avec Isabelle sur la venue de Billie Jean King à Montréal, je pense que c'est la question qui en découle, puis on pourra en parler les trois ensemble. C'est Isabelle, d'après toi, qu'est-ce qui reste à avancer dans le monde du sport, et particulièrement dans le tennis, puisqu'on y est, et comment doit-on continuer de faire avancer la cause de Billie Jean King?
Bien, en fait, c'est de sortir des sentiers parce que, bon, là, quand on est intéressé par le tennis, lorsqu'on est interpellé par la cause des femmes dans le sport, automatiquement, on veut en entendre parler. Maintenant, je pense qu'il faut l'amener à ce que ça soit vulgarisé à tout le monde. Il faut que cette information-là soit là partout. Je pense que ça, c'est la puis de prendre conscience que les gens, de jeune âge à aujourd'hui, tu sais, au plus vieux, qu'on change les mentalités, puis ça sera pas du jour au lendemain. T'sais, ça va être difficile de faire changer une mentalité d'une personne de qui a peut-être 70, 80 ans s'il faut changer des paradigmes, c'est des valeurs, c'est de la culture. Il y a vraiment un travail de fond. Ce que Billie Jean a dit, mais aussi de le prendre dans nos mots, d'avoir plusieurs ambassadeurs comme elle qui puissent faire ce travail-là à différents niveaux. Donc, parce que bon, c'est sûr que j'imagine que on a une Bianca au niveau des femmes ou un Félix, des jeunes qui portent le même message, ça va être encore plus grave. Puis moi, je pense qu'un homme qui porte un message comme ça pour la femme, ça va aider. J'aime bien avoir des échanges dans le titre. C'est que ça soit tout le monde. Lorsqu'on veut de l'inclusion, mais tout le monde doit s'approprier le message.
Ouais, je pense qu'il y a un des bels ambassadeurs dans le monde du tennis pour ce dont tu parles, c'est Andy Murray. Nico, oui. Qu'est-ce que ça prend pour continuer à faire avancer la cause de Billie Jean King?
Ça prend des modèles, tout simplement. Oui, il y a l'argent, il y a le financement, il y a la visibilité, le marketing, mais si tu n'as pas de modèle, tu n'as pas d'inspiration. Si tu n'as pas d'inspiration, tu n'as pas de jeunes qui prennent des raquettes à 7, 8, 9 ans, puis qui vont taper des balles. Ultimement, la réponse est simple, puis peut-être un peu trop simple.
Mais elle est exactement ce que Billie Jean King a dit. Elle l'a dit, elle a dit, ça prend des Serena Williams, ça prend... Puis elle a même lancé presque une flèche à certaines vedettes de la WTA en disant, ces femmes-là doivent prendre plus de place. Ils tiennent pour acquis, un peu entre guillemets, les millions, c'est pas moi qui le dis, là, c'est elle qui l'a dit sur la scène, elles tiennent pour acquis les millions qu'elles font, mais elles doivent eux-mêmes prendre le flambeau et continuer de faire avancer la cause. Alors, ce que tu dis, c'est exactement ce que Billie Jean King a dit.
Je peux ajouter un petit peu sur ça, Alex. Ce qu'elle dit, c'est que souvent, les athlètes au tennis, ça va être très centré sur eux-mêmes. C'est un sport individuel, donc
c'est vrai.
les joueurs et joueuses ont leur équipe et tout se passe un petit peu autour d'eux. Ce qui se passe autour, ben, c'est autre chose. On est plus ou moins intéressé. Et elle dit, en fait, qu'il y a très peu de joueurs et joueuses, pas assez, en fait, qui vont avoir cette curiosité-là sur l'histoire du tennis, par exemple, sur qu'est-ce qui se passe autour. Et elle a quand même cité Bianca Andreescu comme une de celles qui est le plus ouverte, en fait, justement, sur le, avoir, have a sense of history. C'est les mots qu'elle a employés pour pouvoir redonner après. Donc, je pense que ça aussi, c'est un message assez puissant pour que les joueurs et joueuses sortent un peu de leur petit environnement qui est un peu fermé pour s'ouvrir vers les autres et redonner aussi à la communauté et aux gens autour d'eux.
Puis Nico, comme modèle, tu verrais qui, quoi? Est-ce que tu parles spécifiquement de modèle féminin ou est-ce que tu es comme Isabelle, dire ben ça prend des hommes aussi pour rentrer dans cette bagarre-là? Faut sentir que tout le monde se supporte en gros, là.
Ça prend un peu des deux, mais je pense que le modèle n'a pas de sexe. Dans la mesure où Billie Jean King t'a inspiré, Roger Federer a sûrement inspiré plein de femmes. Donc, ultimement, d'avoir des individus qui jouent, qui évoluent, qui performent pour plus grand qu'eux-mêmes, elle est là, la clé. Parce que si je prends mon exemple personnel, sans Roger Federer, j'aurais jamais fait de tennis. Sans Tiger Woods, j'aurais jamais joué au golf. Sans Michaela Schifrin, une femme, j'aurais jamais fait de ski. Alors, ultimement, lorsqu'on ouvre le téléviseur, qu'on voit des athlètes épanouis, qui sème dans chacun d'entre nous des graines d'espoir, ben c'est là que la magie opère. Fait que, homme ou femme, je pense qu'ultimement, ça a peu d'importance. Si on est capable de croire aussi en nos rêves, parce que de voir des histoires comme celle de Billie Jean King, ou même de récemment Francis Tiafoe, tiens, qui est un autre exemple magnifique. Son père était concierge, immigrant de Sierra Leone, avait que dalle, n'avait rien, aucun avenir, aucun espoir. Finalement, gravir les échelons jusqu'à devenir demi-finaliste au US Open. Donc, je suis sûr que Francis Tiafoe, même s'il n'a pas l'envergure ou le statut d'un Roger Federer ou d'une Serena Williams, a sûrement inspiré des tonnes de jeunes Américains à jouer au tennis. Donc, qu'on parte de rien ou de tout, ben, faut juste inspirer la relève. Puis elle est là, la clé.
Mais moi, j'amènerais dans le discours, ça prend de la diversité de genre, de culture, mais d'histoire aussi. C'est pas one size fit all. Tout le monde a sa propre histoire. Que tu commences à jouer au tennis en bas âge parce que, bon, t'as des parents qui sont actifs qui ont joué au tennis. Que tu commences à jouer à 20 ans, à 40 ans, à 60 ans. Peu importe. Il y a des belles histoires. Puis bon, il y a le circuit compétition, mais il y a aussi tout le circuit récréatif. Fait que si plus on va voir des histoires, plus on va pouvoir s'approprier ces histoires-là. Puis dire, eh bien, moi aussi, je peux faire une différence. T'sais, moi, j'ai commencé à jouer au tennis réellement. Ça fait 3 ans, là. C'est pas grave. Je joue au tennis depuis toujours. Balle au mur. J'ai toujours été intéressée. J'ai été chasseur de balles. J'ai fait plein de choses. Ça m'intéresse. Mais à jouer dans une ligue, ça fait 2 ans, ben 3 ans, là, mais avec la COVID. Puis j'adore ça. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut faire. Il faut montrer que c'est possible pour tout le monde. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Puis il y a différentes histoires à raconter.
Puis si moi je peux pinch in, comme on dit, je pense aussi que ça va être d'accepter les gens comme ils sont, puis arrêter de vouloir les rentrer dans des modèles. Si on peut déjà d'office accepter les gens, bon, à condition que ce soit respectueux, mais comment ils sont, comment ils s'habillent, comment ils se tiennent, je veux dire, qu'on arrête de vouloir rentrer tout le monde dans un modèle, et déjà, ça sera beaucoup plus facile d'intégrer tout le monde, parce que si tu te sens à l'aise d'être toi-même, et là, je trouve, nous, au podcast, on est un bel exemple de ça, parce que on est 3 personnes très différentes, 3 personnes qui livrent de façon différente, 3 personnes qui s'habillent de façon différente, pourtant, on est les 3 des tripes de tennis, on jase de tennis à chaque semaine, puis on tripe les 3 ensemble parce que je pense que on réussit à être nous-mêmes là-dedans, puis je pense que le monde du sport a beaucoup à apprendre de ça, de laisser... Tu sais, je veux dire, quand on regarde, je ne vais pas trop tomber dans le hockey, mais quand on se pose des questions sur Piqué Subban, est-ce que c'est grave qu'il soit exubérant? Tu sais, peut-être qu'on devrait juste... Tu sais, Isabelle, je ne sais pas, c'est un peu ça. Moi, ce serait ça ma recommandation pour continuer à faire avancer la cause, finalement.
Ben moi, je trouve ça beau d'avoir différentes personnalités au tennis, au hockey, au golf, dans tous les sports, à la F1, à la boxe. C'est le fun de voir ces gens-là être ce qu'ils sont, puis c'est ce qui les porte à performer de la façon qu'ils sont, là.
Exact. Isabelle, je vais t'offrir 2 choix. Okay. Tu as le choix de rester avec nous pour faire l'analyse des résultats du week-end. Sinon, je t'offre un 15 minutes parce que nous, on se reparle dans une autre entrevue. Si tu veux prendre 15 minutes, c'est libre à toi. Sinon, ben, t'es bienvenue pour rester avec nous après la pause. Ben, fait que tu
ah, okay,
est-ce que je te dis au revoir ou tu veux rester avec nous? Non, non, non.
Je vais rester avec vous autres. Okay, je vais vraiment commenter, mais je vais rester avec vous. Je trouve ça fun. J'aime ça parler de tennis.
Bon, ben, tant mieux. Ben, au retour de la pause, Vachek et Chapeau étant en action, on va parler aussi de Félix.
Vivez une expérience culinaire hors du commun au restaurant de l'Hôtel Montville. Découvrez le concept original du menu à partager, entièrement conçu par notre chef Florimond Anoto. Pour réserver une table, rendez-vous sur hotelmontville.com. Réservez une deuxième nuitée à l'Hôtel Montville et profitez d'un rabais de 30%. Une magnifique vue du centre-ville ainsi qu'un séjour mémorable vous y attendent. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour avoir accès à cette offre.
On est de retour pour parler d'un peu de tennis parce qu'il y a quand même du sport qui jouait au-delà du fait que Billie Jean King était à Montréal. Nico, je commence avec toi. Qu'as-tu pensé de la performance de Denis Shapovalov cette semaine qui a quand même atteint la finale du tournoi à Séoul? Malheureusement, c'est s'incliné en finale, mais quand même, il y a du positif dans une année qui a été un peu compliquée.
Oui, c'est étonnant pour Denis parce qu'il a le tour de nous surprendre quand on s'y attend pas, évidemment, et il a le don aussi de finir ses saisons très, très fort. Rappelez-vous, lorsqu'il a gagné à Stockholm, c'était en octobre ou en novembre, et on a souvent l'impression qu'en finissant fort, il va commencer fort, ce qui est rarement le cas. Malheureusement, à l'Australie, c'est rarement positif pour Denis. Alors, il a le tour de nous faire mentir, de nous faire hésiter. Mais ultimement, ça revient à ce que Hugues dit dans notre conversation, puis c'est pas les rivaux qui avaient amené ce point-là à un moment donné, je pense qu'il y a 2 ans, là, à nos débuts, là, que le pire ennemi de Denis était Denis. Et c'est apparu lors de cette finale-là. Malheureusement, même s'il est encore jeune, il a un très beau potentiel, on le sait, Denis, là, tout le monde le connaît, il doit encore chasser ses propres démons, et malheureusement, c'est peut-être la coche qui lui manque pour graviter autour du top 10, du top 15 de manière régulière. Ce titre-là, il aurait très bien pu l'avoir. Hâte de voir ce qu'il va faire d'ici la fin du calendrier régulier. Mais c'est toujours à des détails près pour Denis, que ce soit mental ou physique. On sent qu'il n'est pas loin, mais il est temps pour Denis que la switch tourne.
Ah, ouais. C'est déjà positif. Hugues, ouais, tu l'as acheté.
Ouais, ben, il y avait le côté du tableau qui s'ouvrait avec Casper Ruud, là, qui était sorti un petit peu plus tôt. Je pensais bien qu'il irait chercher ce tournoi-là. J'ai beaucoup aimé sa demi-finale contre Brooksby. Bien maîtrisé en 2-7. C'est une bonne fin de saison pour Denis, là. Il faut le dire. Je pense que depuis l'US Open, ça se passe plutôt bien pour lui. Le retour de Mikhail Yuzny dans son entourage de coach fait une différence. Clairement, il se cherche moins sur le terrain. Son jeu est plus groundé. Donc, je pense que ça a été un très bon choix de le ramener dans son entourage. Mais effectivement, il manque encore des petits éléments au niveau mental dans les moments clés. Je pense que c'est une finale à sa portée hier. Malheureusement, il a échappé. Mais bon, c'est quand même une finale. Il gagne des points au classement. Il gagne en confiance aussi. Je pense que c'est du bon matériel pour ses coachs pour le préparer pour la suite. Il sera en action aussi cette semaine, d'ailleurs. Donc, effectivement, Tokyo, qui va poursuivre sur sa lancée. Mais c'est somme toute une très bonne semaine pour Denis.
Oui, il a battu Jenson Brooksby dans ce tournoi-là. Alors, c'est quand même positif. Et bon, tu te rends en finale. Bon, c'est sûr que c'est dommage parce qu'effectivement, il aurait pu gagner ce tournoi-là. Mais bon, dans les circonstances, dans l'année qu'il a connue, c'est un résultat plus qu'acceptable. Nico, t'hésites? Tu me sembles déçu?
Non, mais c'est pas que j'hésite, c'est juste qu'avec Chapeau, j'ai l'impression que c'est toujours le même discours de « il est pas loin », de « on va y arriver », de « il en manque un peu ». Parce que lorsqu'on regarde le classement, puis c'est ce que je regardais, là, il est 22e. Si on vise pour lui, disons, un top 15, qui je pense est accessible, devant lui, il y a Berrettini, Schwartzman, Achanov, Tiafoe, Kyrgios, qui sont tous, disons-le, supérieurs, puis qui ont cette capacité d'élever leur jeu d'un cran. Ce que Chapeau a un peu moins, ou du moins le maîtrise un peu moins. Donc, je me demande vraiment à quel point Denis est motivé parce que la côte, elle est abrupte. Et je me demande pour la saison prochaine s'il y aura une si grande différence que ça entre ce qu'on voit aujourd'hui et ce qu'on verra cet hiver en janvier, février, mars pour lui donner ce momentum-là. Parce que présentement, oui, Denis, il est bon, il a un potentiel, mais j'ai de la misère à voir comment il peut évoluer à un tel point qu'il revienne dans cette roue du top 10, top 15.
Ben moi, selon moi, là, c'est mental. c'est d'être dans le moment présent. Chapeau, c'est pas technique, c'est un joueur d'émotion. On aime ça. Quand son émotion est dans le positif, ça va bien. Là, il fait des choses grandioses. Rappelons-nous à Montréal, comment qu'il avait comme surpris tout le monde. Il y avait. Mais l'enjeu, c'est d'être capable de rester point à point dans le moment présent. Puis Billy, pour faire un rappel sur Billy Jenkins, elle disait ça, c'est important de finir, mais c'est important d'être toujours dans le moment présent. Et c'est l'enjeu, selon moi, avec Chapovalov.
Ouais, tu sais, on ne sait jamais. Il y a peut-être des choses qui se passent dans sa vie aussi. Là, nous, on n'a pas une information complète. C'est ça qu'il faut garder en tête. Mais bon, ultimement, c'est un résultat qui a beaucoup de sens. Pendant que je tourne la tête et j'ai resté bête parce qu'à la télé, il y a Joe Wilfried Tsonga qui fait une annonce de vitamines. Alors, je suis tombé, j'ai été un peu surpris. C'est quand même un résultat acceptable. Bon, dans le cas de Vašek Pospisil, messieurs, il a perdu en demi-finale contre l'éventuellement, en quart de finale contre l'éventuel champion à Tel Aviv, Novak Djokovic. C'est une bonne performance, je pense, dans les circonstances pour Vašek. Et Novak, Hugues, comme tu me le disais si bien, reprend là où il avait laissé.
Exact. Après plusieurs mois d'absence, on l'a revu à la Lever Cup. Je me disais, OK, après sa victoire facile contre Tiafo 6-3, 6-2, il est parti pour la gloire encore. Félix qui va chercher ses points contre Novak, ses points cruciaux, je le répète, pour que Timur reste dans la course, éventuellement gagne le tournoi. Je pensais pas que Djokovic était de retour vraiment à ce niveau-là. Il a survolé le tournoi à Tel Aviv. Vašek l'a quand même bien poussé, là, 7-6, ouais. dans le premier set. Un tie-break vraiment, vraiment serré. 6-3 dans le deuxième. Je pense que Vašek a livré une grande performance. On sait qu'ils sont amis tous les deux. Ils ont travaillé sur le nouveau syndicat des joueurs ensemble, dont on entend un petit peu moins parler aujourd'hui. Il y a une super belle poignée de main, très sympathique à la fin du match. Mais Vašek, très, très belle performance. Mais Novak is back with a vengeance. Là, c'est un ATP 250, mais il va aller rechercher des points et reprendre le rythme. Et je crois qu'il n'y a rien qui va l'arrêter d'ici l'Australie. Je suis étonné de son niveau. Écoute, je ne suis pas tant surpris que ça, mais en même temps, je ne pensais pas qu'il reviendrait avec une victoire à son premier tournoi, et c'est ce qu'il a fait.
Ouais, ça relance un peu ma question que je t'ai posée la semaine passée. Si ça avait été Félix dans un match officiel contre Novak, est-ce qu'on aurait eu le même résultat? La semaine passée, tu m'as dit oui et ça se peut très bien, mais il reste que quand on voit sa performance de cette semaine, peut-être que on peut se poser des questions. Et Félix était en action, messieurs, ce matin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas dit ça, mais tough draw. Premier tour un peu complexe contre Roberto Bautista Agut. Quoi penser de ça, Nico? Pas trop s'en faire, j'ai l'impression, là.
Ouais, c'est un peu traître, là, tu l'as dit, comme premier tour. Là, il y a eu des premiers tours plus faciles. Mais ultimement, pour Félix, là, il se bat pour la race. Là. C'est un de ses objectifs de début de saison, faire partie du tournoi de la finale de l'ATP. Mais ultimement, pour Félix, tout ce qu'il va faire entre ici et la fin de la saison, c'est que de la formation. Dans la mesure où il a tellement connu une belle saison, il a joué de gros matchs, il a atteint un nouveau statut, c'est juste du beau. Fait qu'ultimement, même si Félix perd des premiers tours, je pense pas que c'est la catastrophe. Il a une grosse année derrière lui. Ça a été éreintant, ça a été difficile, à la fois extrêmement formateur aussi. Mais perdre au premier tour, c'est rare que je dise ça, mais c'est vraiment pas grave.
Hugues, j'ai une question pour toi. Là. C'est peut-être moi qui flash pas la nuance, mais est-ce que Djokovic est assuré de jouer la race parce qu'il a gagné un grand chelem? Parce qu'il semble avoir un crochet à côté de son nom pour ceux qui sont qualifiés. Parce que pour l'instant, tu as Alcaraz, Nadal, Rude et Tsitsipas qui seraient qualifiés. Félix est en bonne position au 7e rang pour l'instant, mais il semble y avoir un crochet à côté de Novak Djokovic. Je ne sais pas si tu connais la nuance au niveau du règlement ou Nico, si tu as la nuance. Là, mais
Je ne crois pas, Alex. Il faut qu'il soit dans les 8 premiers, peu importe quel tournoi il a gagné. En ce moment, il est 15e à la race, donc il a quand même un assez gros écart pour se qualifier. Donc non, c'est pas acquis pour Djokovic aujourd'hui. Et même pour Félix, il va se faire pousser par Urkacz et Fritz qui sont juste derrière. Zverev qui est 8e en ce moment, évidemment, il sera plus là. On pense pas qu'il va revenir d'ici la fin de l'année avec la blessure qu'il a subie à Roland-Garros à la cheville. Mais Félix doit quand même gagner des points encore. C'est pas acquis. N'oublie pas qu'il reste un Masters à Paris, un Masters 1000. Donc attention à comment ça peut se passer. Ça va être intéressant de voir la fin de saison de Félix en vue du tournoi de fin de saison.
J'ai l'impression qu'il va jouer beaucoup de tournois, Félix, pour pouvoir aller chercher le plus de points possible pour pouvoir se qualifier pour ce tournoi prestigieux là. Isabelle, que penses-tu de la performance de Félix cette année? Est-ce que c'est un joueur que tu as suivi beaucoup?
Oui, énormément. C'est sûr, bon, il fait partie de mes joueurs que j'admire énormément de par son calme, de sa façon, de son éthique de travail. Je pense qu'il a beaucoup maturé cette année. On le voyait des fois justement au niveau mental. Tu sais, il était pas toujours dans le moment présent. On avait beaucoup de yo-yo. On l'a vu aussi encore cette année, mais moins. Sa force physique, c'est devenu un homme, hein, comme on dit. Et moi, c'est drôle, j'ai l'impression qu'il, autant qu'il est en contrôle, je le sens aussi sortir son émotion au bon moment. Pour pouvoir que ça soit comme pour l'engager. Fait que non, j'ai bon espoir pour la suite des choses. Puis moi, je pense que même si ça avait été un match de saison régulière, non pas la Laver Cup, il l'aurait gagné cette journée-là. On le sait, chaque joueur, tu sais, à un matin, tu sais, tu as les jambes plus lourdes, tu l'as dedans. Mm-hmm. Il y a quand même des aspects à chaque fois. Puis cette journée-là, c'était Félix qui l'avait au-delà de Djoko.
Ben, en tout cas, Hugues Léger disait la même chose, puis il disait de la façon dont Novak s'est battu aussi, il y avait des bonnes indications que c'était un match qu'il prenait au sérieux. Là. Isabelle, je te remercie infiniment pour ton passage au podcast Sur la ligne. Tu reviens quand tu veux.
Vraiment,
ça a vraiment été intéressant. Puis ben, c'était cool de te voir aussi à CD Montréal, de voir admirer la grande Billie Jean King. Et Nicolas Richard, ben on s'est ennuyé de toi dans les dernières semaines. Je te redonne ton important mandat, celui de terminer l'épisode comme seul toi sais le faire.
Bon tennis Alex, bon tennis Hugues, bon tennis Isabelle, bon tennis tout le monde.